Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Silence on joue, Erwan Cario, bonjour. Un numéro un peu spécial aujourd'hui, deux niveaux. C'est un peu un numéro de Science on Joue hors série, on va appeler ça comme ça, parce que d'une part, il a été enregistré il y a quelques semaines, ce qui n'est pas courant dans notre situation. On essaye de suivre l'actualité. Et puis surtout, c'est un numéro hors série, car nous allons nous concentrer sur un thème particulier qu'on avait annoncé involontairement il y a 3 semaines d'ailleurs, ou 3 ou 4 semaines. C'était lors de la news d'introduction de Kevin Bitterlin de JV, hein, qui nous avait parlé de la line-up de Focus, et j'avais dit à cette occasion, ce serait intéressant d'avoir Cédric Lagarrigue de Focus Home Interactive dans Silence on Joue pour nous, qui nous raconte l'histoire de cet éditeur un peu spécifique, un peu spécial. Et Cédric Lagarrigue est aujourd'hui présent. Bonjour Cédric.
Bonjour Erwan.
Et donc, le cofondateur, fondateur, non pas directement de Focus, mais enfin celui qui a amené Focus Home Interactive vers le jeu vidéo, c'est ça?
Je suis président de Focus.
Et aujourd'hui, président de Focus. Et donc, tu vas nous raconter plein de choses sur comment Focus est devenu un Focus sur Focus. Non, c'est naze comme jeu de mots. Je t'étais promis de ne pas le faire. Tu crois? Non, c'est inédit. C'est inédit. Et puis avec moi, j'ai toujours le plaisir d'accueillir un de mes chroniqueurs favoris, Patrick Agé.
Bonjour Erwan.
Bonjour Patrick. Et donc on va parler de Focus. Focus d'abord au niveau historique. Parce que on est là. Moi j'ai commencé, alors c'est marrant, j'ai commencé à écrire sur le jeu vidéo pour Libération en 2001. Un des premiers jeux que j'ai chroniqué, je crois que c'était le troisième, c'était après Max Payne et peut-être le deuxième d'ailleurs, parce que je me rappelle que de Max Payne avant, c'était Cossacks, donc jeu de stratégie temps réel absolument bluffant à l'époque, avec des milliers d'unités, 8000 unités à l'écran.
En temps réel.
C'était complètement dingue. Eh ouais,
c'est moi qui faisais les pubs. Hein,
tu le sais.
Jusqu'à 8000 unités.
Et c'était le deuxième jeu de Focus Home Interactive.
Ouais, tout à fait.
Et donc comment est-ce que on se lance dans le jeu vidéo au tout début en 2000, voilà.
Comment on se lance dans le jeu vidéo rapidement, donc effectivement, Focus, on était distributeur au départ, on faisait des logiciels de musique, de création musicale EJ, faire sa musique, voilà, donc on faisait ça. Et à un moment, on avait le réseau de distribution, moi j'étais un fou de jeu, j'avais découvert le jeu vidéo en 94, je jouais énormément à des jeux de stratégie et j'ai vu passer une démo d'un jeu qui s'appelait Sudden Strike, fait par des Russes. J'ai été bluffé, j'ai mis tout l'argent de Focus dans les droits pour la France, on l'a sorti, c'était un beau succès. Et donc le jeu que tu as chroniqué était le deuxième jeu de Focus, Cossacks European Wars, et qui a été vraiment un des plus gros succès de l'année. On était juste derrière les Sims, à l'époque c'était la deuxième meilleure vente de l'année, et on en a vendu 500 000 en France de Cossacks, c'est vraiment quelque chose de légendaire.
C'est le dernier jeu de stratégie où je me suis réellement impliqué, où je pouvais jouer en multijoueur et pas être ridicule.
Moi aussi.
Et je connaissais le build order, vraiment, mais je maîtrisais mes lancements de partie à la seconde près.
Et puis 2001, on rappelle, c'est la préhistoire du PC quasiment. Il n'y a pas encore Steam, il n'y a pas encore les plateformes de.
Ouais, mais à l'époque.
On parle pas de la préhistoire du PC quand même. 95.
On est vraiment sur les débuts du
jeu PC, non, mais
non,
on
pas
est,
les débuts, mais on est vraiment au tout début de. Il n'y a pas de dématérialisation quasiment.
Cossacks, on vendait chez Carrefour, à la Fnac. Enfin voilà, c'était notre modèle. Effectivement, c'était la préhistoire de ce qui est le jeu vidéo, la distribution du
PC
jeu vidéo.
Aujourd'hui.
Tout à fait, ouais.
Configuration complètement différente.
Et donc pour revenir, alors on va revenir sur ces 17 ans finalement, ces 17 ans de l'histoire du jeu vidéo qui fait partie de l'histoire de Focus. Enfin voilà, vous avez participé à cette histoire, vous l'avez suivi forcément de près. Mais on va regarder, ça c'est ce qui est devenu Focus, c'est le jeu qui est prévu pour la fin d'année, jeu on va aussi en reparler du studio français partenaire, finalement, très proche de Focus depuis 2001 avec Cycling Manager. C'est évidemment le studio Cyanide. Et à la fin de cette année, ils vont sortir Call of Cthulhu, The Official Game.
The case is closed.
The bodies, they don't match.
Turn back while you still can. There's nothing to find here.
I have seen things. The dreams of the deep, of a lightless city. Have you had those dreams as well?
He's dreaming. He will awake.
Mr. Pierce, have you ever questioned your own sanity?
Il faudra attendre octobre 2017 si tout va bien pour pouvoir jouer à Call of Cthulhu de Cyanide. C'est un des deux jeux de Cyanide qui sont un peu dans le line-up. Non,
bah, ouais, il y en a un peu plus, mais cette année, oui.
Une des grosses sorties du line-up de Focus.
Attention, parce qu'on parle Lovecraft, parle d'un challenge en termes de jeux vidéo.
Grosse attente sur le jeu. Il y a énormément d'attentes sur le jeu. De la part, bon, après, c'est vrai qu'on s'est assuré quand même que, et puis Cyanide. Ils étaient très motivés par Call of Cthulhu. Ils connaissent très très bien. C'est ce qu'on peut. Enfin, Cyanide, hein, c'était les premiers sur le trône de fer, même s'ils étaient encore jeunes à l'époque. Enfin, ils ont toujours. Ils sont très forts dans aller chercher des licences, aller chercher des univers, les retranscrire. Bon, ils ont vachement progressé depuis effectivement Game of Thrones. On le verra très vite d'ailleurs avec Styx qui va sortir dans 3 semaines. Voilà, c'est un studio qui fait de très beaux progrès et sur Call of Cthulhu, bah, y a des fortes attentes. Parce que nous, on aimerait bien.
Ça met pas la pression de bosser sur un univers comme Lovecraft, c'est quand même.
Mais surtout, quand tu fais un jeu Games Workshop, t'as la pression, t'as un groupe d'hardcore fans. Quand tu travailles sur Call of Cthulhu, là, on a signé Werewolf, c'est pareil, de World of Darkness. Voilà, c'est des univers, il faut savoir prendre des risques, mais surtout s'assurer que les équipes sont habitées par la licence, ça, c'est ce qu'il y a de plus important.
Ouais, surtout sur un univers comme ça qui très particulier.
Et vous avez signé les yeux fermés, hein, Call of Cthulhu par Cyanide, ou
non,
ça se passe
nous,
comment
on a signé la licence Call of Cthulhu et on a cherché le bon studio pour le faire. Voilà, c'est ça. Mais après, c'est comme ça que ça se passe. On signe jamais les yeux fermés à un projet. Jamais. C'est encore vrai. De moins en moins, d'ailleurs. Au début, c'est vrai qu'au début, chez Focus, ça se faisait un petit peu... voilà.
Vous aviez déjà pris la marque et vous avez décidé après quel type de jeu, quel studio va pouvoir travailler dessus et proposer quelque chose d'intéressant dans le contexte.
Sur Call of Cthulhu, sur Call of Cthulhu, tout à fait.
Et on va revenir en 2001 d'ailleurs, parce que je trouve que cette première collaboration avec Cyanide en dit énormément sur finalement sur ce qu'est devenu Focus aujourd'hui. Ça part d'un truc complètement. Oui, je m'en souviens très bien parce que je l'avais aussi. Je crois que j'avais aussi chroniqué. J'avais pas été forcément très gentil à l'époque parce que je trouvais que c'était très très dommage de pas avoir de dopage.
On va ressortir le papier d'ailleurs. Est-ce qu'on a papier là?
C'était Pro Cycling Manager. Cycling Manager. Un jeu complètement ovni où on se mettait à gérer des équipes de cyclisme professionnel et à gérer les courses aussi. Alors on devait pas pédaler, on devait pas appuyer sur les boutons pour faire pédaler, mais on pouvait décider quand est-ce qu'on accélérait, on ralentissait, on revenait dans le peloton, on faisait une attaque, on faisait une offensive, on partait en sprint. Alors il fallait pas partir en sprint au début, ça je l'ai appris très vite à mes dépens parce que j'en finissais pas l'étape, ce qui est normal, ce qui est comme dans le vélo. Mais bref, il y a un studio. Ça se passe comment ? Il y a un studio qui vient vous voir à Focus et bonjour, on a un super projet, c'est du vélo, signez-nous.
Non, c'est pas comme ça que c'est passé. Mais c'est fondateur parce qu'en fait, si Focus est devenu Focus, c'est aussi cette rencontre-là, puis d'autres après comme Nadeo avec Trackmania, enfin d'abord Virtual Sleeper. C'est fondateur. Focus a beaucoup de succès en France avec deux jeux faits par des Russes et des Ukrainiens, Sunstrike Cossacks. Tout d'un coup, on arrive effectivement dans le radar de tous ces studios français indépendants qui cherchent du financement, des partenariats, qui connaissent Ubisoft, qui connaissent Infogrames, qui connaissent à l'époque tous les éditeurs susceptibles de... Voilà, Cyanide avait fait le tour de tout le monde, personne ne voulait de leur jeu. Il se dit, tiens, Focus, ils ont l'air pas mauvais, ils ont deux gros succès, peut-être que je vais aller les voir. Donc effectivement, il vient me voir, il me dit, voilà, j'ai un jeu de vélo, il vient me voir, je crois que c'est au mois de... pareil, février, quelque chose comme ça. Il me dit, voilà, j'ai un problème, j'ai un jeu de vélo, il faut que je le sorte avant le Tour de France, sinon ma boîte, elle meurt. Voilà. Un jeu de vélo, ah, c'est intéressant. Et je regarde, Et quand je vois son jeu, je dis, ah, mais je repensais, moi, quand j'étais gamin, je viens de la Baule, hein, je jouais avec mes billes et je faisais le Tour de France dans le sable, avec mes copains, j'adorais ça. Et là, tout d'un coup, je vois ça, j'ai eu un coup de cœur extraordinaire. Et il me dit, le seul problème, c'est que c'est un jeu online, parce qu'à l'époque, ils avaient un deal avec Callisto qui venait de terminer, qui venait de fermer, et qui les avait mis sur un jeu en ligne.
Ouais.
Et je dis, il me dit, le problème, c'est que c'est un jeu multijoueur en ligne. Je dis, mais attendez, un jeu multijoueur sur un jeu de cyclisme, ça va être compliqué. Ouais. Si vous faites un jeu solo, je le signe. Et en 2 mois, ils m'ont fait un jeu solo, on l'a sorti. Et ce qui était très drôle à l'époque, c'est que tu avais toutes les enseignes, genre Fnac, Micromania, Carrefour. On venait de sortir 2 jeux où on avait vraiment trouvé tout le monde. On avait vendu des c'est incroyable, c'est un strike Cossacks. Et ils disaient, c'est quoi votre 3e jeu? Et quand on leur a dit, Cycling Manager, ah, là, ils se sont dit, OK, ils ont eu 2 coups de chance. Et là, tout le monde s'est moqué de nous, mais quelque part, ils étaient obligés de prendre le jeu en magasin parce qu'on venait de faire de grands succès. On leur disait, mais si, je vous assure, ça a marché, quoi. Et franchement, le jeu, il est sorti top des ventes. Voilà, c'est la première fois que je crois que j'ai pleuré en voyant des résultats devant un jeu parce qu'on a sauvé un studio quand même qui allait vraiment fermer. Personne ne croyait en Cycling Manager. Et nous, on y a cru vraiment beaucoup. On s'est vraiment beaucoup pour l'imposer. Et ça a marché, ça a été le début d'une collaboration extraordinaire. Et puis ça a été aussi fondateur pour Focus parce que on a pu mesurer toutes les attentes d'un studio par rapport à un éditeur, hein, puisqu'il y a eu une ADO après. Et tous nous disaient, c'est super ce que vous faites. Mais le problème qu'on a, c'est que Focus, il n'y en a qu'un, il est en France. Dans les autres pays, on se fait escroquer, on est mal distribué, les mecs qui comprennent pas les jeux, leur marketing il est pourri. Et en fait, bah Focus est devenu Focus par rapport à ses fondateurs, hein, tout ça. C'est cette relation avec ces studios indépendants français qu'on découvre, puisque nous, jusqu'ici, on faisait l'acquisition de droits pour la France de jeux étrangers. Et tout d'un coup, on découvre effectivement l'écosystème français, ces studios, on a vu comment ils marchaient, leurs attentes. Et Focus est bâti finalement pour être complémentaire, totalement complémentaire de ces structures indépendantes qui, elles, se concentrent sur le développement, faire des jeux.
Et peut-être aussi avec une vision qui est encore et peut-être plus que jamais d'actualité aujourd'hui, une vision du jeu de niche.
C'est... Ouais, ce que je dis souvent, c'est qu'est-ce qui est le plus de niche ? Qu'est-ce qui est plus la niche ? C'est d'aller tuer un dragon ou alors de récolter des champs ?
Bonne question.
Bah, mais c'est...
Bonne réponse.
Donc, c'est ça, à partir du moment où tu te dis ça, t'as compris qu'il n'y a pas le jeu de niche, en fait, non, t'as tout à exploiter, à inventer, à reproposer dans le jeu vidéo. Faut pas justement se dire, bah, moi, le jeu vidéo, ça a commencé dans les années 80, on va faire des RPG avec des... Non, il faut tout proposer, être capable, à partir du moment où ça s'y prête et que t'as un gameplay, t'as une expérience qui est là, c'est extraordinaire. Moi, j'ai joué à Farming Simulator, alors je fais Farming Simulator, c'est moi qui suis allé le dénicher, mais j'ai énormément joué au dernier, alors que j'arrivais pas à jouer au précédent, parce que j'arrivais pas à rentrer dedans. Là, le dernier, j'ai passé 50 heures dessus. Et j'ai beaucoup plus de plaisir, finalement, effectivement, à vendre mes premières récoltes qui vont me permettre de m'acheter le gros tracteur qui va me permettre d'aller 2 fois plus vite. Là, il y a un achievement, il y a un vrai achievement, quoi. Et c'est pour ça que ça marche, Farming Simulator.
Non, en tant qu'éditeur, j'imagine qu'on ne travaille pas de la même façon à un Farming Simulator ou à un Cycling Manager qu'un jeu de stratégie.
Call of Toulouse,
on parle pas au même.
Call of Toulouse, The Surge, Vampire, c'est pas du tout.
On parle pas aux mêmes typologies de public.
C'est ça qui est extraordinaire.
Voilà, c'est pas forcément.
On s'ennuierait radicalement si on ne proposait qu'un certain type de jeu.
Alors concrètement, quand tu as lancé Cycling Manager, comment c'était travaillé? Il n'a pas été travaillé comme les précédents jeux. Il y avait une façon de l'aborder un peu différente.
Mais comme on l'a fait à chaque
fois, même s'il n'y avait pas les réseaux sociaux,
Cossacks, c'était un jeu ukrainien. Quand tu regardais la direction artistique, c'était très coloré, c'était pas très joli. Après, c'est la manière dont tu vas proposer ça au public. Il y a aussi ça, c'est toi qui vas faire le filtre et que tout d'un coup, tu vas faire en sorte que les gens vont arriver à se projeter dans un projet. C'est ça qui est important. Il faut être capable, sur tous les projets qu'on fait, de se projeter. C'est de se dire, même si c'est quelque chose qui peut paraître obscur au très grand public, et c'est ça qui est génial dans le boulot d'éditeur, quoi. C'est de voyager sur plein d'univers différents. Enfin, je deviendrais fou si je faisais que les jeux que j'aime.
Ouais.
Vraiment. Et voilà. Et dans notre line-up, il y a des jeux que j'adore, il y a des jeux auxquels je ne jouerai pas. Et c'est comme ça.
Mais c'est vrai que, cette sorte de mauvais mot, mais qui continue à être utilisé pour Focus, qui est les jeux de niche, qui sont finalement des jeux qui s'ouvrent vers des sujets qui sont complètement non abordé dans le jeu vidéo.
Non, mais ça, c'est quelques jeux. Ouais. C'est des jeux spectaculaires, parce qu'effectivement, Cycling Manager ou Farming Simulator, c'est spectaculaire, parce que les gens se disent, waouh, ils ont cru à ça et ça a marché. Quoi.
Et Virtual Skipper aussi.
Ouais, mais ça a été un moins un succès,
Virtual Skipper.
Donc c'est moins marquant. Mais donc on fait pas des jeux de niche. Mais pour moi, je dirais qu'on fait presque des jeux de niche, qu'on fait des Space Hulk, des Battlefield Gothic, ou même du Call of Toulouse, presque.
Ouais.
Parce que c'est beaucoup plus moins accessible, ouvert que l'agriculture ou le Tour de France.
Et comment les premières, dans les premières années, parce que du coup, vous, à Focus, vous découvrez l'écosystème des studios de développement français. Comment se passe cette découverte? Enfin, c'est le rapport, il y a évidemment avec Cyanide, hein, qu'on connaît, Nadeo.
Mais des copains, déjà. Ouais. On vit des aventures communes, on est tous jeunes, hein, on est tous des gamins, on se lance dans des trucs un petit peu fous à la conquête du monde, hein, puisque jeux vidéo, faut se le dire, hein, tu ne peux pas amortir tes coûts, avoir un retour sur investissement qu'en France. Donc forcément, tu regardes vers l'international. Tu regardes le monde entier, tu dis comment au début on avait des succès, succès qu'en France, effectivement en étant distributeur, et puis en tant qu'éditeur, bah, Trackmania ça a marché essentiellement en France, Cycling Manager ça marchait en France, dans les territoires où effectivement le cyclisme était populaire, mais il n'y en a pas tant que ça. Donc voilà, on a cette vision, comment on va y arriver, et c'est là où on a commencé aussi à réfléchir à la dématérialisation très vite, comment toucher le monde entier. Et c'est vrai que nous, on a tout de suite vu le téléchargement, la vente par téléchargement. On est vraiment un des pionniers de la vente par téléchargement.
Pour toi, c'est à quel moment vous avez vraiment mis l'accent sur...
Le téléchargement, je crois qu'on a commencé en 2005. Mmh. Ouais, 2005. On s'est vraiment dit, OK, le PC n'est pas mort. Parce que tout le monde disait, ouais, le PC, c'est mort, c'est mort, c'est mort. On disait, non, le PC n'est pas mort. C'est juste qu'ils veulent plus le mettre en magasin parce que c'est compliqué, il y a du piratage. Et puis, c'est plus simple pour les éditeurs de vendre des jeux consoles. Les barrières à l'entrée sont plus hautes, il y a moins de concurrence, ça tue tous les petits. Course à l'armement, c'est ce qui s'est passé. Mmh. Et nous, on était un peu les Astérix, ce petit village gaulois. Non, le PC est toujours vivant. On va exploiter Internet, les téléchargements, les sites, la digitalisation, la communication en ligne. On a développé tout ça. On a été un des tout premiers à travailler avec Steam. On leur donnait même les jeux 6 mois après qu'ils sortent sur notre site, parce qu'on disait, attendez, vous êtes gentils, après le fait, ce qui est juste inconcevable aujourd'hui.
Oui.
Non, mais c'est ça qui est drôle.
Tu vas pas voir Steam en disant...
Tenez, je vous donne...
Non, mais on leur faisait ça à l'époque. Ouais. Hein. Ah non, vous attendez 6 mois. Hein. On vend déjà beaucoup, et puis après, on vous le donne. Non, mais c'était rigolo, mais c'était des époques fabuleuses, extraordinaires.
Mm-hmm. Alors, je crois que une des particularités,
vous n'êtes pas uniquement éditeur des jeux avec les studios, mais vous êtes aussi producteur.
Ouais,
vous avez la main mise sur le développement aussi.
Vous collaborez
avec les développeurs. Comment ça se passe concrètement?
Ça passe par tout. Déjà, la période de pré-prod, voilà, on se dit, tiens, un univers, que ce soit SpaceX, que ce soit Call of Duty, on va fixer effectivement des objectifs avec le studio, s'assurer qu'ils ont une bonne vision du projet.
C'est assez spécifique, parce qu'en général, quand un éditeur travaille avec des studios externes, il passe une commande, et en général, ça se fait de façon... Parce que là vous travaillez vraiment de façon proche avec les studios.
Jamais un éditeur, alors si, peut-être des tout petits. Mais les gros éditeurs, et encore les éditeurs, n'externalisent plus la production, hein, c'est-à-dire qu'ils ont tous leur studio, hein, ils font plus de third parties aujourd'hui, et parce que c'est des jeux qui sont tellement gros, c'est des blockbusters, des franchises, des licences.
Aujourd'hui, ça devient très compliqué.
Voilà, il y a cette partie-là, il y a les éditeurs de jeux vidéo, et aujourd'hui, on est le plus petit des éditeurs de jeux vidéo là où on opère, hein, puisque nous, on est sur console et PC, en magasin, chez Walmart aux États-Unis, Carrefour, France, Micromania, Steam, partout, quoi. Ouais. Les éditeurs comme ça, c'est que des gros normalement, et puis il y a Focus. On est tout seul, hein, il n'y a pas d'autres éditeurs comme nous, il y a peut-être 505 Games. Mais qui sont moins présents. Et puis il y a Paradox sur PC avec Devolver, mais on est...
Et en fait, vous êtes là dès autour de la table quand on décide de travailler sur un jeu, vous êtes là, vous, tout de suite, à décider le genre de jeu.
Non. Par contre, on peut effectivement avoir des idées. Vampire de Dontnod, c'était pas du tout un RPG quand ils nous l'ont présenté. C'était un shooter. J'aurais dit, les gars, un shooter, déconnez ou quoi? Et voilà, on les a challengés, ils sont revenus 3 mois après avec une autre vision, on leur a ajouté quand même des compétences qu'ils n'avaient pas forcément en interne, on les a challengés, et puis une fois qu'on était...
Franchement, un jeu comme ça, pourquoi tu changes le genre? Parce que c'est quoi, c'est l'adéquation par rapport à la thématique, au marché?
Parce que j'ai des attentes, moi je suis un éditeur, je fais de l'éditorial, donc moi un jeu de vampire RPG, ça fait des années que j'en cherche, donc voilà, et là je me dis, tiens, ça y est, il arrive et il me montre un shooter, j'en ai un merde. Voilà. Non mais voilà, c'est con, mais moi je suis un éditeur, donc forcément j'ai une vision du marché, je vois à peu près ce qu'on peut faire, ce qui manque.
Ce qui est précieux pour un studio aussi, hein, c'est d'avoir un retour.
Bien sûr. Mais par contre, ceux qui font les jeux, ceux qui ont le talent, c'est eux qui vont se bagarrer sur pas mal de choses. C'est eux qui sont décisifs, bien sûr. Mais nous, on est là pour les chouchouter, croire en eux, leur donner les moyens, les accompagner, bien communiquer sur leur jeu, pas dénaturer le propos, la philosophie même du studio. Et voilà, on essaie de faire les choses bien, quand même.
Il y a eu quand même, si on revient un peu, je suis désolé, moi je fais un peu fil rouge, continuez à digresser, ça m'embête pas, mais c'est parce que tu en as parlé sur cette période, donc vous vous êtes lancé dans le téléchargement en 2005, mais il y a eu quand même cette période 2007, 2008, 2009, où, alors, il y avait évidemment cette sorte de rengaine perpétuelle, le PC est-il mort, le PC est-il mort, le PC est-il mort. Et quand même, dans les chiffres, il y avait quand même une sorte de coup de blues du côté de la production PC qui voyait pas, qui avait du mal à se projeter aussi face à cette offensive un peu monstrueuse des consoles.
Mais parce qu'ils voyaient pas la dématérialisation. Ouais. Et nous, on était morts de rire. Hein. Ah ben nous, on a beaucoup rigolé. Hein. Paradoxe ici. Hein. Ah nous, on a beaucoup rigolé. Hein. On en a lu des articles. Hein. On en a lu des spécialistes et des études de marché. Hein. Qu'est-ce qu'on a rigolé, quoi. Bah oui, bah on voit aujourd'hui ce qui s'est passé. Mmh. Voilà. Non, mais c'est voilà, c'est comme ça.
Donc
nous, on a beaucoup rigolé, hein, on était jeunes et on a beaucoup rigolé de tous ces spécialistes.
Mais il y a toujours la confiance ou c'est il y a un moment où on commence à se poser des questions. Est-ce qu'il faut pas aller voir la console
On y allait vers la console. Ouais. Ah ben tout merde, la console, les barrières d'entrée, elles sont tellement difficiles. Faut savoir quand même qu'un jeu sur console, ça coûte entre 6 à 8 euros à fabriquer.
Ouais.
Hein, c'est le fee qu'on paye à un consolier. Hein, c'est pas sur PC quand on fabrique un jeu, c'était 1 euro coût de fabrication, on en parle plus. Sur console, il faut être capable de dépenser 7 à 8, 9 euros par jeu fabriqué. Même si tu le vends bas, il est pour toi. Et en plus, tu dois avoir un minimum de commandes. À l'époque, je crois que c'était 150 000 unités.
Ouais,
150 000 unités pour l'Europe. Donc tu dois être capable de distribuer tes jeux partout en Europe si tu veux devenir éditeur console.
Ouais.
Hein, il n'y avait pas d'histoire de digital à l'époque. C'était OK. Donc c'est minimum 150 000 par plateforme. Donc déjà, tu te retrouves avec 1 million d'euros à sortir même. En plus des frais du jeu, les trucs comme ça, donc il faut être capable d'avoir un bon réseau de distribution, bien maîtriser tes budgets, bien maîtriser la communication internationale. Donc nous, on a attendu. Mmh. On a commencé par le PC, on a fait la dématérialisation, on a fait notre réseau PC parce qu'on avait quand même des petites PC qui marchaient bien. On a commencé à s'implanter un peu partout. Une fois qu'on était implanté, on s'est dit OK, on se lance dans la console avec nos premières licences qui marchaient bien. C'était Trackmania, c'était Blood Bowl qu'on a porté sur console et voilà, on s'est lancé. Aujourd'hui, le PC ne représente plus que 30% de notre chiffre d'affaires. Donc on a vraiment fait notre mutation, transformation. Mais bon, ce qu'il faut savoir à la fin, c'est qu'il n'y aura plus de PC, il n'y aura plus de console. Hein. Vous allez tout jouer sur des écrans connectés. Et il n'y aura plus cette notion de plateforme comme aujourd'hui. Si ça peut te paraître incroyable, moi je l'annonçais pour la musique et la vidéo il y a quelques années, tout le monde se foutait de ma gueule. Aujourd'hui, tout le monde a Deezer.
Tu étais un fervent défenseur du cloud gaming.
Bien sûr, bah oui, on y va. Mais on fait déjà de l'argent avec le cloud gaming, mais depuis des années. Nous, ça fait depuis 2011 qu'on a les programmes de cloud gaming.
Ouais, mais qui prennent pas des masses quand même. Enfin, mis à part sur les box des opérateurs en ce moment.
Sony a son PlayStation Live.
PlayStation Now.
Maintenant. Ouais, et qui génère du cash, des revenus sur une petite population et qui aujourd'hui génère quand même des revenus pour Focus. Ça représente 10% aujourd'hui le cloud gaming de notre. Je vais pas dire de bêtises, mais ça représente. Je vais peut-être dire une bêtise, mais ça représente des revenus qui commencent à être conséquents le cloud gaming, alors que c'est pas encore déployé quoi.
Moi j'ai déjà expliqué, il m'énerve le cloud gaming. Mais bon, c'est un autre sujet.
Mais c'est comme la musique. La musique, les gens se disaient mais jamais on pourra entendre de la musique en streaming.
Ouais.
Aujourd'hui, plus personne ne se pose la question. Il faut juste dire un truc, c'est que tout va très vite. Et moi, depuis que je suis dans le jeu vidéo, je l'ai vu. Alors au début, tout le monde me disait le téléchargement, ça marchera jamais. Parce que les jeux sont trop lourds à télécharger, c'est impossible, ça ne marchera jamais. Mais exactement les mêmes oppositions au cloud gaming aujourd'hui.
Ah ouais.
C'est la même argument.
On pourrait en parler, mais je pense que c'est pas la même chose. C'est pas la même chose d'avoir un processeur. En fait, est-ce que le streaming, c'est du stockage qui est centralisé et qui est distribué. Là, c'est de la puissance de processeur qui est centralisée. Philosophiquement, ça me plaît.
Tu verras. Mais c'est ça qui est génial.
Oui.
Et il faut te dire qu'aujourd'hui, t'as quoi ? Ton public, c'est quoi ? C'est 200 millions de gens qui jouent sur PC, il y a 60 millions de PlayStation 3 et 35 je crois de Xbox One, c'est tout petit.
Ouais.
Le jour où tu n'auras plus besoin de plateforme et il te suffira d'un écran connecté internet pour jouer à un jeu vidéo, là ton audience elle devient gigantesque. Et là tu as 1,5 milliard de potentiels joueurs dans le monde. Non mais c'est ce qu'il faut se dire. Et là le jeu vidéo sera vraiment un média hyper grand public. Aujourd'hui c'est encore lié à une plateforme. Bon, j'enlève les smartphones, hein. Les smartphones je les mets de côté. Mais
ok, voilà. Donc moi j'étais en train de parler de 2009 et là tu m'emmènes en 2030, mais
non,
bon c'est pas grave.
Même pas, 2020.
Mais
oui, et je l'ai dit. Sur silence,
on joue. On l'a entendu
dans les archives.
Ici,
hein, vous avez perdu les archives quand je suis venu la dernière fois, c'est là que vous la ressortirez.
Donc, on arrive à 2010. Et puis un des tournants quand même de Focus avec une licence, une toute petite licence au départ, sorte de pari encore un peu dingue
qui est
rentré dans la légende aujourd'hui. Ce pari-là, ça se passe comment, Farming Simulator?
Bah bien. Non mais c'est bien, mais c'est un beau pari. Et plus qu'un pari, c'est qu'on a vraiment cru on a vraiment vu le truc. Quoi. On l'a vraiment vu, on l'a imaginé, et tout ce qu'on a imaginé est arrivé. Quoi. Mmh. Mais tout ce qu'on a imaginé, c'est de faire un énorme truc mondial, une des plus belles franchises du jeu vidéo. Clairement. Avec un positionnement complètement atypique, effectivement, qui a bouleversé un petit peu tous les éditeurs et tous ceux qui pensaient justement que... Il y avait que certains types de jeux qui pouvaient marcher. Ouais. C'est un beau pari et une très belle réussite.
Le jeu fonctionnait déjà en Allemagne, c'est ça? Je crois il avait déjà un public...
En fait, la petite histoire, je la raconte rapidement. Je donne un cours à Léonard de Vinci. Ceux qui étaient là s'en souviennent, puisqu'il m'en parle encore. Qui était sur, justement, les acquisitions pour un éditeur dans le jeu vidéo. Il y a des écoles spécialisées dans le multimédia, le jeu vidéo. Mmh. Il y avait un thème, il y avait un thème sur l'acquisition dans le jeu vidéo, comment un éditeur construit son catalogue. Donc moi, je leur explique Focus. Et tout très bien, puis il y a une nana à la fin qui me dit « Ouais, super, mais bon, à l'époque, vous pouviez faire, mais aujourd'hui, c'est pas possible. Aujourd'hui, c'est devenu trop gros, trop concurrentiel, c'est impossible. » Je dis « Si, si, bien sûr, il faut juste prendre un angle différent, aller chercher quelque chose voilà, d'original, et d'y croire, et de le travailler. Ah oui, mais c'est facile de dire ça. Vous avez des exemples ?» Je dis « Bah ouais, j'ai un exemple. Prenez vos ordinateurs, et c'était tout sur leur laptop. » Je dis « Bah allez sur Amazon, je vais vous montrer. Allez dans le meilleur classement vente PC. » Donc tout le monde est... Là, vous voyez un jeu qui s'appelle Landwirtschaft Simulator, qui est un jeu de tracteur non traduit en français, en allemand, que les gens achètent sur Amazon, et les ventes sur Amazon sont supérieures, et il est dans le top 5 des ventes PC. Je dis « Bah vous voyez, ce jeu-là, je l'ai regardé, parce que je regardais les ventes d'un de mes jeux, je me disais « Tiens, est-ce qu'il marche bien sur Amazon ?» Je dis « Mais c'est quoi ce jeu ?» En allemand, c'est un bug d'Amazon. Sauf qu'à un moment, j'ai tapé le nom et je leur explique. Je tape le nom, donc Landwirtschaft Simulator sur Google et Google France, pour voir ce qui se passe en France quand même. Et là, je tombe sur des forums de type où il y avait des dizaines de milliers de mecs qui étaient déjà inscrits dans les forums.
Ouais.
Il y avait une communauté de dingue et je me disais, oh dingue. Et je regarde ce qu'ils modèlent, etc. Et je dis, mais ouais, bien sûr. Tout le monde joue sur Facebook à Farmville. Tout le monde. Ouais. Hein. C'était vraiment le jeu le plus populaire. Tout le monde me saoule avec l'amour et l'enfré. Ces types-là, ils sont là. Je dis, mais bien sûr, c'est extraordinaire, c'est un potentiel de dingue. Et je leur explique ça. Et tout le monde se marre. Tout le monde se marre, je me barre sur ma moto. Et sur ma moto, je me dis, mais je suis trop con, moi. Je suis en train de leur expliquer comment, avec un jeu comme ça, moi, je pourrais en faire un blockbuster international. Et là, je suis là avec mes jeux de niche, pour le coup, les jeux de niche, chez moi, les jeux de gamer, c'est les jeux de niche pour moi. Avec moi, mes jeux ultra, hardcore PC, gamer, les trucs comme ça, les Blood Bowl, les trucs. Et moi, je suis en train de leur expliquer. Et non. Et le lendemain, on appelait Suo et ça a été le début de l'histoire. Et on leur a dit, vous savez quoi les gars, c'est bien sur PC, mais sur console, ce sera encore mieux. Et on y croit énormément et on les a vraiment amenés tout en haut. Hein. On a quand même vendu 7 millions d'exemplaires de Farming Simulator sur console et PC.
Donc et là, il y a Farming Simulator...
Le dernier, le 17. Tous les deux ans, nous. Hein, tous les deux ans, on en sort un. Hein, avec du contenu, bien sûr, qui arrive tout le temps, tout le temps, tout le temps pour nourrir cette famille.
Farming Simulator 17, on va regarder quelques images. Farming Simulator 2017, enfin 17, donc sorti fin 2016, hein, comme c'est à l'habitude un peu sur ces jeux annuels. Moi, j'y avais joué il y a quelques années, et là, quand je vois les images, il y a quand même une sorte de... C'est ce que t'en parlais hein, tout à l'heure, que même toi, tu t'y es mis, en fait, du coup.
Ouais, bah ouais, c'est vrai qu'on leur a fait on a beaucoup discuté avec l'équipe de Giants devant le succès devant le succès du jeu. Hein, c'est-à-dire qu'à un moment, on s'est dit, bon, bah, de quelle manière on va pouvoir le faire évoluer. On a fait beaucoup d'études, on a beaucoup lu ce que disaient les joueurs, les attentes, les choses comme ça. On a vu aussi quelles pouvaient être les faiblesses du jeu en termes d'accessibilité, représentation graphique, affichage, toutes ces choses-là. Donc il y a eu un énorme boulot et ils sont arrivés de manière très... ils ont vraiment très très bien bossé. On les a aidés à atteindre tous leurs objectifs. Et voilà, ouais, c'est une belle réussite aujourd'hui. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les joueurs ne le voyaient plus comme le petit jeu qui a eu un succès énorme. Ils le voyaient comme un gros jeu sur Farming 15. Donc pour nous, c'était vraiment important que le Farming 17 fasse un peu plus gros jeu, belle production pour ces millions de joueurs. Et je pense qu'ils ont été super surpris. Je crois qu'on a 96% de user score sur Steam. C'est une des plus belles notes sur Steam, avec et un des jeux les plus vendus aussi sur Steam.
Et les plus vendus, ça donne. C'est
sur
quoi
Steam? Ah, Steam, c'est pas. Alors, ce qui est, c'est drôle avec Farming Simulator, on touche vraiment le grand public, donc ils n'ont pas l'habitude de télécharger. Donc, Steam, c'est petit. On vend plus en magasin sur PC que sur Steam. C'est fou. Hein.
Ah oui, c'est un des rares, finalement.
C'est extraordinaire.
Sur PC, c'est devenu,
C'est délirant. Non, mais c'est délirant. C'est fou.
C'est très étrange.
Ah ouais, complètement.
Sur PC, le marché, lui, il est.
Il est clairement digital. Ouais. Clairement, ouais. Ouais. Mais voilà.
Qui joue à Farming Simulator aujourd'hui? Est-ce qu'on a un profil type un petit peu
Tout le monde, ouais, bien sûr. Alors, bien sûr, il y a tous ceux qui ont un intérêt avec l'agriculture, que ce soit aussi bien des agriculteurs, des étudiants, lycéens agricoles, enfin, il y a ça, bien sûr. Il y a beaucoup aussi de joueurs. Hein, sur Steam, les joueurs, c'est des hardcore gamers, hein, donc ils sont des centaines de milliers à jouer à Farming Simulator. C'est un des jeux les plus joués sur Steam, avec une moyenne, je ne vais pas dire de bêtises, je crois que c'est 100 heures. Par joueur, c'est un truc de fou. Hein. Il fait partie, j'avais vu une étude, il faisait partie des 20 jeux les plus joués en termes de jeux passés sur le jeu. Non, il est vraiment génial. Il y a beaucoup d'enfants qui jouent, il n'y a pas beaucoup de femmes. C'est pour ça que j'ai demandé à ce qu'on rajoute une nana, on puisse jouer aussi une agricultrice.
C'est important.
Voilà, c'est important. Mais ça donne aussi. Voilà. Donc, non, c'est essentiellement des hommes de tous les âges. Et voilà, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans l'agriculture. Un peu à la manière d'un Grand Turismo, ils ont accès à un garage gigantesque avec toutes les marques, sont fidèlement reproduites. Voilà, hein, donc ils sont là, ils sont nombreux. Et puis, moi, j'ai passé énormément de temps sur le jeu, j'ai adoré y jouer. Et ouais, ça ressemble à une sorte de RPG, voilà, où on grandit, on développe.
Tu disais qu'en tant qu'éditeur, vous avez eu un impact sur la façon de faire évoluer le jeu. Qu'est-ce que vous aviez entendu comme demande des joueurs pour justement faire progresser le jeu? Qu'est-ce que les joueurs vous demandaient?
Nous, on avait quelques idées parce que en y jouant, bah forcément, ça manquait un petit peu de quêtes, ce qu'on appelle les quêtes, et on se disait bah voilà, il y a un côté RPG avec des missions, des choses comme ça. C'est ce qui manquait. Et puis c'était une très bonne manière d'intéresser les joueurs et pas de les laisser. C'est juste sur une map perdue. Oui, c'était un peu le cas de Farming Simulator. Aujourd'hui, il y a vraiment un système de missions qui sont des quêtes, une progression du personnage. Scénarisation, non, mais avec une vraie progression du personnage. Et après, on les a vraiment challengés sur tout ce qui est représentation graphique, l'affichage, les technos, les rendus, les textures, les animes.
Enfin, et la réalité virtuelle, c'est pour quand, alors?
La réalité virtuelle, ouais. Si on me paye pour le faire, oui. Donc là, effectivement, il y a des gens qui réfléchissaient à nous donner de l'argent pour faire une version virtuelle, mais le marché n'est pas encore là pour être capable d'amortir des coûts importants de développement spécifique.
Vous avez sorti des titres compatibles?
Bien, ils sont tous compatibles. À partir du moment où on fait un jeu en 3D, c'est pas compliqué de le mettre en... Mais après, il faut que ça se prête avec une jouabilité, avec des déplacements, avec une expérience. C'est ça qui se travaille. Ouais. Mais oui, Farming Simulator en virtuel, ça pourrait être pas mal. Ouais.
Et donc, alors là, 2010, en fait, pour Focus, outre l'aspect effectivement public, enfin, c'est un jeu important, Farming Simulator.
Ah, c'est extraordinaire.
Mais alors, au niveau purement économique, ça a été assez incroyable.
Et stratégique aussi. Ouais. Hein. Ah bah, c'est ce qu'il faut. Hein. De toute manière, tous les éditeurs, à un moment, ont grandi avec un jeu. Hein. Eidos, c'était Lara Croft, Ubisoft, c'était Rayman, Activision, c'était Call of Duty. Tous ont eu à un moment un jeu qui leur a permis de se développer, d'aller plus vite. Nous, qu'est-ce que c'est pour nous, Farming Simulator? Bah déjà, c'est des revenus, hein, c'est des revenus assez spectaculaires qui nous ont permis de réinvestir dans beaucoup de productions de jeux qui sont sortis et qui ont très bien marché par la suite. Hein. Tous les jeux qu'on a sortis, le line-up de Focus, voilà, on a gagné de l'argent, on l'a réinvesti dans de la prod, souvent de la prod française, ça a très bien marché. Ça nous a permis aussi, avec le succès qu'il a eu, être un vrai interlocuteur pour les Microsoft, les Sony, les Walmart, tous les distributeurs. Ça nous a permis d'avoir un bon line-up. Et voilà, ça a été une accélération extraordinaire pour Focus. Il y a eu la bourse aussi, Farming Simulator, les succès des jeux. Voilà. Donc nous, c'est des revenus qu'on réutilise pour faire ce qu'on a envie de faire, c'est-à-dire des bons jeux, les proposer au monde entier, continuer de grandir comme ça, avec des Farming Simulator, avec des vampires, des surges, on kiffe quoi, c'est super.
Et donc, mais dans la même période, donc où Focus devient un éditeur, parce que, enfin, un éditeur stable financièrement, enfin plus que stable, rentable,
toujours été.
Mais en particulièrement bonne santé financière, avec des capacités d'investissement qui ont grandi avec Farming Simulator. Et puis là, on arrive dans cette période où plus personne ne dit que le PC est mort à partir de 2012, avec l'émergence de la scène indépendante qui s'impose réellement, Steam qui s'impose aussi en tant que plateforme de distribution majeure. développeurs sur le jeu vidéo, comment est-ce que d'un point de vue d'un éditeur qui a tout le temps été sur le PC, qui a tout le temps été
qui représente plus de 30% de notre chiffre d'affaires PC,
mais qui a une histoire quand même avec ce support là, comment est-ce qu'on vit cette période là où un peu de d'ébullition complète?
Ouais, bah à la limite c'est que maintenant tout le monde dit ouais c'est génial, à la limite c'est maintenant que c'est difficile, donc c'est ça qui est rigolo. Voilà. Et nous, on a vu le truc arriver, on s'est dit, ouais, ils vont tous arriver, les mecs sont sur mobile, là, à faire n'importe quoi, ils vont tous revenir, oh là, on va tous aller sur PC. Donc il y a eu la pression sur Steam, qui a ouvert son catalogue, il y a 6000 jeux qui sortent par an. Voilà, c'est un peu compliqué. Donc c'est pas... Non, faut pas voir les choses comme ça, en fait. Voilà, quand t'es éditeur, tu dois toujours être au bon moment, avec bien maîtriser tes budgets, la rentabilité, pas te planter. Le PC, c'est très difficile aujourd'hui. Mmh. Pas pour nous, hein, nos métiers par deux, notre chiffre d'affaires sur Steam l'année dernière, parce qu'on sait faire. Alors, nous, Steam, alors il y a un moment, effectivement, tout le monde dit, ouais, super, Steam, c'est génial, les indépendants. Les indépendants, avant, quand sur Steam, il y avait 50 jeux qui sortaient par an, à peu près. Ok, donc un jeu indépendant qui sortait sur Steam, c'était minimum des dizaines de milliers de ventes, et quand il était pas mal, c'était des centaines de milliers de ventes, et quand il était super, c'était des millions de ventes. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Aujourd'hui, il y a tellement de jeux que des petits jeux indépendants, bah, c'est un peu comme sur mobile. C'est un petit peu compliqué, quoi. Donc la plateforme PC, elle est toujours là, mais mieux vaut être multiplateforme, mieux avoir des projets d'une certaine taille que tu es capable effectivement d'aller sortir aussi bien sur les consoles que sur PC, parce que le challenge, il est là aujourd'hui. Ouais. Nous, on a très peu de concurrents sur les trois plateformes. Sur PC, on en a énormément, mais le fait d'être multiplateforme dans notre manière de communiquer... Puis bon, c'est aussi, nous, Steam, en fait, on fait aller les gens sur Steam pour acheter nos jeux. On n'attend pas que Steam les mette pour qu'ils se vendent, quoi. Et c'est la grosse différence, et c'est un peu le problème qu'a eu le marché mobile à un moment qui peut être très compliqué, sauf que ça coûte beaucoup plus cher de faire des jeux PC que de faire des jeux mobiles. Ça, c'est clair.
Et donc... Je voulais revenir là-dessus, c'est que il y a cette période où il y a la production indépendante et vous décidez d'accompagner. Alors ça me rappelle un petit peu, on a parlé de Paradox Devolver. C'est comme ça quelques éditeurs qui finissent par croire aux jeux indés, qui se disent les jeux indés c'est bien dans le côté indé, parce que indé, la première définition c'est indé, c'est sans éditeur, c'est-à-dire le studio direct avec son public qui balance sans intermédiaire. Mais
pour moi, indépendant c'est qu'il n'appartient pas à un éditeur. Ah oui. Voilà, il peut choisir de travailler avec qui veut, un éditeur, une banque, un fonds d'investissement, voilà. C'est ça, être indépendant pour moi. Non, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est extraordinaire pour des boîtes comme des structures comme Focus. Globalement, voilà, les éditeurs qui font eux-mêmes leurs jeux, je parle des grands éditeurs, bon, bah, y a un type qui dit, bon, on va faire ça comme ça, tac, 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 et tout l'éditorial est basé sur les idées d'un type. Nous, on est éditeurs. Qu'est-ce qui se passe? Des studios indépendants, il y en a des dizaines de milliers dans le monde. C'est pas autant de bonnes idées. Ouais. Mais sur ces dizaines de milliers de studios, bah, c'est des centaines d'idées extraordinaires. Quelques-unes auront la chance d'arriver jusqu'à nous, et c'est fabuleux. De se construire avec les fabuleuses idées de tous ces créateurs, c'est extraordinaire. On a vraiment un vivier qui est extraordinaire. Et aller effectivement se dire, tiens, moi, effectivement, on y croit, on arrive à se projeter, et on croit dans le studio, leur capacité à porter le projet jusqu'au bout, c'est ça qui est excitant. Et c'est génial de faire ce métier. En fait, d'être un éditeur comme Focus, ouvert vers tous ces studios indépendants, être vraiment le complément parfait de ces studios-là, hein, parce que je pense que tous les studios sont contents de bosser avec nous, ce qui explique leur fidélité et même l'attractivité. On voit tous les plus gros studios aujourd'hui, ils veulent bosser avec les gros studios indépendants. Là, il y a Asobo qui nous a rejoint, il y a Deck 13, on a signé Insurgency Sandstorm. Ils avaient quand même vendu tout seul 3 millions de FPS hardcore sur Steam, hein, le premier Insurgency. Ils viennent nous chercher quand même pour faire le prochain. Tous les plus gros studios indépendants sont en discussion avec nous en ce moment. Parce que voilà, et on voit avec qui on pourra bosser, mais on n'aura pas la capacité de bosser avec tout le monde non plus. C'est clair, on fait une dizaine de jeux max par an et on s'arrête à ça, quoi.
Est-ce vous faites se rencontrer ou travailler ensemble?
Ouais, bien sûr. Tout le temps.
Des partages de techno, des choses comme
ça.
Tout le temps.
Dès qu'il y a une problématique avec un studio qui a déjà eu le. Enfin, ouais, bien sûr, on les fait échanger.
C'est l'intérêt d'avoir comme ça plusieurs.
Bien sûr, tout à fait. Et c'est même, on les fait se rencontrer souvent. Voilà, là, il y avait le CNC qui était chez Focus, présenter le crédit d'impôt. Bah, il y avait tous les studios. On a fait un truc avec Epic sur l'Unreal 4 pour tous les studios. On fait des journées Microsoft, Sony, Steam quand ils viennent en France. On a tous les studios.
Il y a un côté écurie Focus, en fait.
Non, pas une écurie. Non, une famille. Plus qu'une écurie. Une écurie, c'est un peu.
Oui.
Non, c'est plus une. C'est plus une. Pas une famille, une confrérie, une brotherhood, un truc un peu. Voilà, on a des idées, des valeurs communes, une passion intacte toujours, et puis des envies de, bah, de faire jouer, de faire plaisir au monde entier. On est quand même drivé, c'est vertueux. On est limité par nos moyens, hein, parce qu'on ne fait pas des jeux à 50, 100 millions de dollars comme nos concurrents sur les marchés consoles, mais avec des plus petits budgets. Ouais, voilà. Step by step, on essaie d'arriver vers un certain idéal de jeu vidéo et on commence à y arriver là.
Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur justement le rôle de l'éditeur, de l'éditeur de jeu. Comment tu le définirais, toi, en quelques mots, le métier d'un éditeur comme toi ? C'est quoi ton...
Bah, déjà, des éditeurs comme Focus, il n'y en a pas beaucoup. Non, mais vraiment.
C'est ce qu'on disait, c'est un schéma assez particulier. Le rapport au studio est très spécifique.
Ouais, bien sûr. Non. Voilà, nous, on est vraiment complètement différents. C'est lié aussi, je pense, à moi qui commençais, et qui très vite était copain avec des patrons de studio et qui a construit Focus par rapport à.
C'est quand même un rapport très particulier qu'au studio, on
ouais,
est
bien
d'accord.
Sûr, ouais,
c'est
tout
quand
à
même
fait,
une marque de fabrique.
Mais on est beaucoup chez Focus. On est une centaine maintenant, donc il y a un savoir-faire, il y a une organisation, une expertise. C'est très professionnel maintenant. Alors qu'avant, c'était vraiment, voilà, on était tous des potes, on y allait, voilà. Maintenant, aujourd'hui, Focus est devenu une belle machine de guerre, hein, qui reste petite. On est une petite PME. Mais voilà. Mais oui, il y a un rapport, il y a beaucoup de respect. Je pense que le respect, c'est important, et la confiance. Mais on doit avoir confiance en eux comme ils doivent avoir confiance en nous. Quoi. Mmh. Donc voilà. Et quand ça se passe mal avec un studio, on ne travaille plus avec. Voilà. Ça arrive de temps en temps, rarement. Mais voilà. C'est vraiment on ne les punit pas, on ne travaille plus avec eux. Voilà. Tout simplement.
J'imagine que du coup, vous calez vos plannings de sortie par rapport aux différents studios. Enfin, comment ça s'organise et selon les...
Non, on va pas signer des projets concurrents. Qui sont susceptibles de sortir, effectivement.
Qui peuvent se cannibaliser ou des choses comme ça.
Bien sûr,
ça
ouais, tout à fait.
Mais le choix, on parlait des thématiques de jeu, des genres, de bien répartir.
Mais c'est marrant, non, mais c'est aussi des envies. Puis aussi, on voit ce qui se vend à un moment et on se dit, attends, il faut se renouveler. On a fait de la science-fiction l'année dernière. Là, on est dans le dark fantasy. On fera des choses un petit peu différentes. Voilà, on essaie d'évoluer et de pas rester sur un genre bien précis. Ouais.
Alors comment tu sens justement ça qui est intéressant ? Comment tu sens toi les tendances ? Puisque toi, tu es en tant qu'éditeur, comment on perçoit les tendances de ce qui va être important dans les 6 mois, un an qui viennent ?
J'en reviens à ça. Il ne faut pas chercher quelles vont être les tendances. Il faut bien comprendre
quelles
sont.
Il faut quand même essayer de se projeter, j'imagine.
Oui, justement, c'est ça qui est génial dans le jeu vidéo. Il faut pas se dire que oui, il y a les tendances bien sûr, mais les tendances c'est pas là où tu feras les plus belles choses. Il faut justement savoir qu'est-ce qui pourrait plaire par rapport aux habitudes, par rapport à pas aux tendances, mais voilà.
Un contre-pied par rapport à.
Pas forcément un contre-pied, mais il faut aller au-delà de tout ça, aller chercher des choses un petit peu nouvelles de temps en temps et se dire tiens ça c'est il y a rien, l'espace est vide.
Trouver des, par contre, des endroits de.
Donc t'es en train de nous refaire là, tu pourrais nous refaire le truc que t'as fait en 2009, aller sur Amazon voir un truc absolument improbable
oui,
et le signer, c'est encore possible en 2017.
Ah, bien sûr, complètement. Ah non mais complètement. Après bon je dis pas que là je suis en train de voir un jeu. Non là je vois des projets qui sont super excitants. Alors il y en a qui sont en production chez Focus. On parle avec d'autres studios en ce moment sur des trucs qui sont vraiment très très excitants, mais voilà, c'est pas du Farming Simulator.
Mais quelque part, tu repensais, tu parlais de la jungle un peu qui est devenue quelque part la plateforme Steam.
Ouais, PC, en général.
PC. Mais finalement, pour un éditeur comme Focus, elle est plutôt pas mal cette jungle, c'est-à-dire que ça peut vous permettre de repérer des produits ou des gens qui sont capables de faire des jeux, qui ont un vrai truc, un vrai potentiel.
Non, mais complètement.
Avec la possibilité.
Je pleurais toutes les larmes de mon corps en 2008-2009 quand je les voyais tous aller sur mobile. Enfin non, même un peu plus tard, je sais plus. Je leur disais mais arrêtez de les envoyer. J'étais au SNJV, je leur disais mais arrêtez de parler du mobile, du free to play, ça va être compliqué. On a besoin de jeux pour le PC, pour Steam. Je leur expliquais quand même qu'il y avait des vrais, qu'en France il n'y avait pas encore ce savoir-faire. Il n'y avait pas de studio qui travaillait sur des jeux gamers et qui sortaient de la DS, de la Wii. Là, il fallait les emmener sur autre chose que du mobile et du free to play. Et là, c'est en train d'arriver. Et c'est ça qui est génial. Non, mais c'est ça qui est vraiment génial. Donc là, aujourd'hui, en France, je trouve qu'il n'y a jamais eu autant de studios indépendants de qualité avec des vrais jeux, enfin bon, qui cartonnent. Et c'est génial. Et là, il se passe un truc, quoi.
Mais en tout cas, la Science en Joue, nous, on n'a jamais été de ceux qui ont dit que le PC allait mourir, parce qu'on a eu des grands défenseurs, des grands défenseurs du PC au sein de cette émission. Mais par contre, moi, il y a quelque chose qui m'étonne presque. Quand je vois, par exemple, on va parler là, pour la fin de l'émission, quand même, de cette line-up dont a parlé Kevin JV l'autre jour. Cette line-up qui est assez impressionnante. Et moi, ce qui, autant j'ai pas cru à la mort du PC, autant j'avais du mal à avoir un avenir pour les, comment appeler ça, des double A.
Ah bah si, au contraire.
Bah oui, mais à un moment quand même, en 2014...
C'est la stratégie de Focus, hein, depuis le début. Hein.
Bah oui, mais en 2014-2015, quand il y a eu justement une vraie, un vrai écosystème indépendant qui a commencé à se monter, et de l'autre côté, des triple A avec des budgets qui ont complètement explosé, qui dépassaient les 100 millions de dollars... on a remarqué une sorte de vide au milieu, quoi.
Qu'on occupe. Nous, on fait des jeux qui coûtent plus cher que des petits jeux indépendants, ouais. Et on fait pas des blockbusters. Mais on est, tu vas au cinéma, tu regardes American Nightmare, La La Land, enfin, le nombre de films qui cartonnent, qui sont des tout petits budgets, mais ridicules par rapport aux blockbusters Avengers et les Marvel et Disney et trucs comme ça. Bah, c'est pareil dans le jeu vidéo. Dans le jeu vidéo, soit tu te bouffes du Avengers et du Disney, et du super-héros et des trucs toute ta vie. Enfin, voilà, non, je pense que tout le monde a envie de jouer à des jeux indé avec beaucoup de créativité, de l'originalité, avec une direction artistique singulière, avec des voilà, et nous on est en plein dedans, et nous on essaie de faire de l'excellent double A, vraiment du double A. Enfin, moi je pense que j'ai pris plus de plaisir sur certains de nos jeux qui n'étaient pas encore là où on veut les emmener l'année dernière que certains gros blockbusters sur lesquels j'ai joué. Je me suis dit, ils se foutent de moi là. Vraiment, quel intérêt, quoi. Enfin, au bout de 2-3 heures, je suis ah non, je peux plus. Mais c'est pareil pour plein de joueurs. Mmh. Et je pense que la chute des blockbusters, c'était à Noël, s'explique en partie par le désamour.
Mais c'est vrai que Noël 2016 a été un petit peu compliqué au niveau
très compliqué. Ouais. Mais ça, on l'a vu arriver. Nous, on en parle depuis quelques années déjà. On dit que ça va arriver. Ça, on l'a annoncé quand on est rentré en bourse. C'est vrai que sur le positionnement de Focus, où il y avait d'un côté le marché mobile, d'un côté les triple A et les blockbusters, nous, on était sur un marché qu'on expliquait aux investisseurs, aux fonds d'investissement, à la bourse, aux journalistes, à la télé, partout. Ils nous regardaient en disant, quand on leur disait que les blockbusters allaient coincer, ils nous regardaient, ils se marraient, ils disaient, bon, bah oui, pourquoi pas, quoi. Et ça arrivait, quoi. Mais parce que voilà, les gens, ils ont besoin de renouveler l'expérience, l'intérêt.
De prendre des risques aussi, d'être fait.
Bah, c'est moins de risques, au final, c'est moins de prendre de risques d'être sur des petits budgets maîtrisés.
Mais de prendre des risques créatifs.
Oui, mais c'est pas des risques, c'est libérer la créativité des gens. Plutôt que de l'enfermer dans les études de marché, dans des franchises, des licences, des séquelles, des choses comme ça, à un moment, tu libères la créativité des gens, tu leur donnes confiance, il y a des résultats derrière. On a fait des beaux cartons, quand même, avec des jeux, des vrais jeux. Là, on parle de Farming Simulator, mais on a vendu des millions de jeux avec des licences Games Workshop. On a vraiment fait des très très belles réussites, des multiplicateurs d'investissement sur quasiment tous nos jeux, quoi.
Alors, vous avez bien développé, on en a parlé, votre positionnement sur les consoles depuis quelques années maintenant.
Ouais, mais pour nous, c'est multiplateforme. C'est console PC.
Mais quel regard tu poses sur le marché console aujourd'hui? On voit des nouveaux entrants comme Nintendo qui lance la Switch aujourd'hui. Je crois que vous avez annoncé un titre qui arrive dessus.
C'est eux qui l'ont annoncé. Hein.
D'accord, c'est pas vous alors.
Bah, c'est pour ça, ça fait plaisir. Non,
on peut se répéter un petit peu. Hein,
c'est pour une petite boulette, moi, sans salarié, c'est sympa. C'est non, mais c'est vrai qu'on a tellement...
Le marché console aujourd'hui, quel regard tu portes dessus?
Bah, le marché console, il est génial parce qu'il est un petit peu comme on l'avait aussi anticipé. Hein, désolé, hein, je pense que la science d'anticipation est très importante chez un éditeur. C'est-à-dire que très vite, nous, on s'est dit, on va pas faire de filiale de distribution comme tous les éditeurs dans le monde entier parce que la console aussi va se dématérialiser. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Aujourd'hui, la plupart de nos chiffres d'affaires sur console aussi, ça prend la même tendance que le PC, c'est-à-dire qu'à partir du moment où une personne achète son jeu sur une console en téléchargement et qu'il a un disque dur suffisant, bah, il a du mal à se dire, tiens, je vais continuer d'avoir des disques Israël, des trucs. Donc, oui, c'est génial. Et c'est pour ça que j'arrive vers l'écran connecté aussi, où effectivement, on voit que les gens qui nous disaient, oui, mais les gens jamais... ils achèteront des jeux à 60-70 euros en téléchargement sur leur console. Et c'est vrai que sur la PlayStation 3, c'était 10% d'achat. Là, aujourd'hui, c'est en train d'exploser, quoi. Mais d'exploser, quoi. Alors après, je sais pas, Microsoft, Sony, Omicron peut-être là-dessus, mais... Et ça, ça change tout pour une boîte comme la nôtre. C'est-à-dire qu'on est parfaitement organisé. Avec,
et c'est les frais de distribution aussi.
Bah, t'as plus, c'est 7-8 euros que tu payes. Ouais. Tu payes plus que 30% à la même manière que tu payes Apple, Steam, Sony, Microsoft. Tu leur donnes 30% sur le prix de vente. Donc t'as plus les frais de distribution, frais d'expédition, frais de fabrication, le fil. Ouais, c'est, ça change tout, quoi.
On va juste regarder des images, avant de conclure cette émission, des images d'un jeu qui sort en mai, hein, donc qui faisait partie de cette line-up dont on a parlé, donc la line-up de Focus. Alors parlons juste pour citer les autres. On a Vampire qui arrive donc de Dontnod. Dontnod, c'est Life is Strange pour ceux qui pour raccrocher les choses. Il sort quand Vampire?
Septembre-octobre.
Septembre-octobre. Styx, toujours de Cyanide.
14 mars.
Et donc là, celui qu'on va voir, c'est The Surge. C'est du studio allemand Deck 13. Deck 13.
Deck 13 en allemand.
Ouais, mais ça, je
je me la pète.
Et celui-là, il est attendu en mai, The Surge.
Creo, you know who we are. Or at least you think you do. Creo is one of the world's largest manufacturers of consumer and industrial products. But we're so much more. Creo's not just a company. It's a way of life. Here you're not just seen as anybody, you're somebody. Somebody special. At Creo, we have your well-being at heart, and that includes body and mind.
Donc The Surge attendu en mai, Deck 13. Patrick.
Ouais, j'ai une question. Vous travaillez beaucoup avec des studios français, voire de régions parisiennes, en grande partie. Alors, je ne vais pas utiliser le mot de French Touch qui est devenu très difficile aujourd'hui, mais non, mais je veux dire, est-ce qu'il y a une particularité aux prods françaises? Est-ce qu'il y a une façon de faire le jeu qui est spécifique de penser le gameplay? Est-ce que pour toi, il y a une signature
Ouais, il y a beaucoup de raisons. La première raison, effectivement, quand tu externalises la production, c'est plus facile d'avoir un studio à quelques kilomètres de chez toi plutôt que de l'avoir au fond.
Enfin,
c'est un premier point. Et ce qui explique aussi que la plupart d'entre eux sont parisiens. Mais on s'est ouvert, bien sûr, vers l'international avec une vraie organisation chez Focus. Maintenant, pour parler des Français, effectivement, les Français sont en train de se libérer complètement, d'avoir beaucoup de confiance à travers des réussites. On parlait de Life is Strange. Mmh. Là, ils sont en train vraiment de prendre confiance. Je pense qu'on a quand même fait sortir quelques studios français aussi qui réussissent aussi à l'international. Donc, il y a une formation en France qui est exceptionnelle, hein, que peu de pays ont. Hein, et je pense que
artistique,
qui est pas liée qu'aux jeux vidéo.
Oui, il y a des écoles de jeux vidéo.
L'animation, les écoles même dans l'animation, on est très fort. Ouais. Le cinéma, l'écriture. Enfin voilà, je pense que la France c'est un pays extraordinaire où il y a énormément de talents. Et à partir du moment où on arrive à organiser tout ça, créer ces structures, les aider, les faire grandir, je pense qu'aussi les pouvoirs publics se sont rendus compte de l'intérêt de soutenir la filière jeux vidéo. Mm-hmm. Et le CNC le fait très bien. Il y a eu beaucoup de choses qui ont bougé. Il y a le crédit d'impôt jeux vidéo qui changeait énormément de choses. Là, on va économiser jusqu'à, on va avoir un crédit d'impôt, donc diminuer les coûts des prods jusqu'à 30%, c'est pas rien, clair, surtout ce qui est investi en France. Donc, ça nous permet d'être compétitifs par rapport au Québec, par rapport à d'autres territoires où effectivement il y a du dumping, il y a beaucoup de fuite des talents. Non, il y a un vrai savoir-faire français. Alors, le but quand même, et je dis souvent en français, attention. Il faut être français. Un jeu vidéo, un Américain, quand il lance le jeu vidéo, il faut pas qu'il dise « Ah, ça, c'est un jeu français ». Non, mais ça, c'était le problème de la French Touch,
qui était trop français.
Nous, c'est l'international, on fait des jeux pour le monde entier, fait par des Français, où il y a le talent, effectivement.
Ça, vous le pensez, dès la conception du jeu, attention, il faut que ça soit...
Bien sûr. Si on voit que c'est trop français, c'est pas assez accessible pour un marché international, on sait que ça risque de bloquer. Ouais. Et au début, on faisait des jeux très français, focus. Hein. Au tout début, le Tour de France. non, mais vraiment, on faisait des jeux qui étaient très très français, quoi. Et on sait vraiment. Et je suis très fier en tout cas de ce qui se passe en France, du jeu vidéo indépendant français. Et j'espère que ça va continuer. Il y a vraiment une place à prendre au niveau international. Et il y a un savoir-faire qui commence à être reconnu aujourd'hui par pas mal de d'acteurs.
Et tu suis, j'imagine, la scène des petits studios qui se créent. J'imagine que tu es à l'affût des choses qui peuvent émerger, des créations.
Je suis en un rendez-vous. Il y en a un qui était chez nous ce matin et qui nous présentait un projet assez extraordinaire que j'ai beaucoup aimé.
Et est-ce qu'il y a encore... C'est vrai que c'est assez marrant, je repense, vous aviez fait... comment ça s'appelle, Fire Department, les jeux de pompiers, des jeux de bateaux, des jeux de vélos, des jeux de tracteurs, des jeux de... Il y a encore un... Est-ce que dans vos cartons, quelque part, pas annoncé, il y a encore un secteur complètement improbable du jeu vidéo qui va débarquer? Et un jeu de journaliste? Non, mais je...
Ça existe. Hein,
non, c'est un métier d'avenir.
Il y a même des jeux d'éditeurs de jeux vidéo. J'ai vu qu'il y avait un jeu publisher. C'est assez rigolo. Non, mais bien sûr, mais ça, je le sais pas. Je le verrai en le découvrant. Quoi. Ouais. Si un jour, on nous apporte un truc, on se dit « Ah, ouais, là, il y a peut-être un truc, oui. » Mais là, au jour d'aujourd'hui...
Mais il y a encore, ouais, il y a encore des territoires.
De toute manière, je pense que rien qu'au niveau technologique, enfin, il y a tellement de choses qu'on n'a pas encore vues et qui vont arriver. Voilà, on n'est pas au bout de nos surprises, heureusement, hein, puisque Kozax paraît bien loin aujourd'hui. Quand on
en même temps, ouais, j'ai pas recraqué pour un jeu de stratégie temps réel depuis Kozax.
Moi, j'ai eu American Conquest, un de mes studios que j'ai beaucoup aimé. Puisqu'on pouvait jouer là jusqu'à 64 000 unités.
Ouais, ouais. Mais, bon, mais après, c'est moi. Hein. C'est pas...
Non, voilà.
Donc, il y a encore des surprises. Merci.
Merci à vous.
Merci, Cédric Lagarrigue, d'être passé dans Silence on Joue pour cette petite hors-série consacrée à un éditeur. C'est rare, mais en même temps... Voilà, je voulais pas être non plus dans une actu marketing aurais vendu un produit et tout ça. Je voulais vraiment parler d'une histoire comme ça qui a marqué.
Il n'y a pas tant d'éditeurs que ça en France.
Non,
c'est plus facile d'avoir Cédric Lagarrigue qu'Yves Guillemot, je pense. Ouais. Je rigole.
Oh qui sait?
Bon, moi je propose Yves. Prochain, c'est toi.
C'est ça. Avant Bolloré, hein, de préférence.
Oh non. Je pense pas qu'il puisse te parler de jeux vidéo, Vincent Bolloré.
Non, je pense pas. C'est fini donc pour le jeu vidéo en lui-même, pour cette émission et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Patrick?
Moi, je suis allé au cinéma à nouveau. J'ai vu Lego Batman.
Ah, tu l'as vu?
Je l'ai vu. Alors, écoute, mitigé. J'ai adoré la première demi-heure, trois quarts d'heure. La première moitié, j'ai trouvé ça super réussi. Très méta, en fait. Ouais. Il y a tous les Batman cités, la série des années 60, le Batman de Burton, etc. Puis il y a surtout une prise de distance par rapport au personnage. On se moque de Batman, et ça, je trouve ça génial. Je trouve que la deuxième partie du film s'embourbe un peu et ça perd le peps du début. Mais mitigé, mais le début vaut vraiment le coup. Il y a vraiment des scènes à mourir de rire parce qu'on se moque de ce personnage qu'on adore tous, mais il a quand même quelques soucis, Batman. Hein. Et ça, c'est bien mis en scène dans le Lego Batman. Puis le réal est toujours très intéressante.
Voilà. Cédric,
je dois parler du dernier film que j'ai vu.
Ou de la série, ou du livre, ou de la BD.
Je suis allé voir le dernier Scorsese la semaine dernière. J'hésitais entre le dernier Canet et le dernier Scorsese. Je pense que j'aurais dû aller voir Canet quand même, parce que c'était dur. C'était dur. T'as aimé, toi?
Non, j'ai pas vu encore.
Ah ouais, non, mais je me suis un peu ennuyé. Et on s'est tous ennuyés, d'ailleurs.
D'accord.
Toute la salle, hein, vraiment. Ouais. Je pense qu'il y a un énorme écart entre ce qu'on lisait dans les critiques. Mm-hmm. Bon, après, il y a le respect de Scorsese, qui est un immense réalisateur. Mais bon, là, il est un petit peu. C'est un petit peu dur, quand même. C'est un petit peu austère.
Un peu long?
Non, austère.
Austère.
Très austère. Très austère. Vraiment.
Et pour ma part, moi, je voulais quand même toucher un mot parce que, à côté de Silence on Joue, je fais une autre émission hebdomadaire à Libération et avec No Life qui s'appelle le 56Cast. Et je voulais toucher un mot parce que, depuis le début de cette saison, le 56Cast, en fait, qui est un podcast qui a aussi évolué en émission de télé, qui est très nouvelle technologie à l'origine, usage internet et tout ça, en fait, est en train de dériver vers une sorte de tropisme scientifique où on invite des spécialistes de Jupiter comme un spécialiste d'un vautour qu'on essaie de réimplanter dans le massif central, ou alors des choses complètement improbables de protéines qui cassent l'ADN, ou alors enfin et voilà, et je trouve que cette saison du 56Cast est absolument exceptionnelle, donc je vous invite. Et le 56Cast a une chaîne sur YouTube aussi, et le 56Cast, c'est, si je ne m'abuse, le mercredi à 20h sur No Life. Voilà, donc je vous invite à aussi voir ce qui s'y passe. Voilà, c'est fini donc pour cette semaine, et moi je vous dis à la semaine prochaine sur No Life, sur Libération et sur les internets. Ciao, merci.
Merci à vous.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.